Et maintenant, un bon boîte de cast.
Voilà, bien bonjour à tous. Je suis en face de quelqu'un qu'on a déjà entendu sur les boîtes cast. Et je vais essayer de faire une photo un peu correcte de lui cette fois-ci. Je vous représente Cyril Demagde. Bonjour Cyril.
Bonjour à tous.
Alors Cyril Demagde, un petit pitch de qui est Cyril Demagde, juste pour se remémorer.
Eh bien, je suis la personne qui s'occupe d'Histary Games.
La dernière fois qu'on a entendu parler de Histary, eh bien, c'est avec Metropolis, Scylla, etc. Est-ce qu'on peut repasser sur ce petit épisode?
Ben, Metropolis, sorti là cette année, sorti pour le salon de Nuremberg, et puis ça y est, là, il est présent partout dans les boutiques, donc voilà. Maintenant, on s'occupe effectivement de Scylla, qui va être présenté à Essen. Donc un jeu de Dominique Erard, un jeu un peu différent. Je sais que souvent les gens ils disent « Ah ça c'est bien un Histary ». Celui-là est légèrement différent. D'abord parce que c'est de Dominique Erard, qui est un auteur un peu atypique, qui fait un peu de tout. Et celui-là, je ne peux pas le décrire. Nous on dit que c'est un genre d'ovni. Un mélange entre Respublica Romana, donc le gros jeu qui dure 18 heures et quelques, et Saint-Pétersbourg, le petit jeu qui dure une heure. Donc disons que c'est la durée de Saint-Pétersbourg et... le genre d'ambiance de Respublica Romana, quoi.
Ok, donc c'est un thème romain, on va dire. On l'a vu passer sur la Trick Track TV, dans un joli divan. On peut repasser sur son mécanisme?
Oui, rapidement, les joueurs sont des sénateurs romains, ils sont en quête de prestige pour succéder à Scylla, qui était un dictateur, donc environ moins 80 avant Jésus-Christ. Et pour ça, ils vont devoir principalement se soucier du bien-être du peuple de Rome, qui va être symbolisé par des marqueurs, civisme, loisirs, santé et famine. Donc les sénateurs vont tenter de construire des bâtiments, des thermes par exemple pour améliorer la santé, ou un colisée pour améliorer les loisirs, etc. Ils avaient des loisirs un peu musclés à l'époque, comme on sait. Et surtout essayer de tirer leur épingle du jeu en se faisant construire des bâtiments par exemple d'un arc de triomphe qui a rapporté beaucoup de prestige. Ça se joue assez rapidement en 5 tours, et au bout de 5 tours, celui qui a le plus de points va être élu le nouveau dictateur de Rome.
D'accord, donc on peut dire que c'est un jeu plus stratégique que tactique?
Il est stratégique dans le sens où tout au long de la partie, l'un des principaux moteurs de points, c'est d'essayer d'accumuler des jetons de civisme qui vont correspondre à la position finale du jeton dans l'échelle. En fait, plus un jeton est élevé à la fin, plus il va rapporter. Donc, quand on ramasse des jetons de civisme, par exemple, on va essayer d'influer pour que le civisme soit très haut. Mais en même temps, comme c'est un jeu un peu romain, c'est assez traîtreux, on peut également jouer... Traîtreux, c'est absolument pas français, d'ailleurs. On peut jouer sur le fait de dire « Moi, je vais accumuler pas mal de civisme parce que je sens que le civisme va être très bas. » Il va donc y avoir une grosse crise politique. Les Romains vont descendre dans la rue et dire « Le civisme, c'est trop bas. » Et moi, je vais pouvoir exhiber tous mes jetons de civisme et montrer que moi, je travaille pour le peuple de Rome, et donc marquer des points. Donc, il y a vraiment pas mal de façons de faire. Il faut aussi bien lire ce que font les autres, parce que c'est difficile d'être tout seul, de faire monter, par exemple, pour prendre autre chose que le civisme, les loisirs, tout seul. Donc si je prends plein de jetons verts, éventuellement, donc c'est les jetons de loisirs, les autres joueurs vont dire « Oh, lui, il a beaucoup de jetons verts, on va pas l'aider à faire monter les loisirs. » Donc c'est un jeu d'alliance tacite, on va dire. Il n'y a pas vraiment de négociation, mais il faut essayer de comprendre les courants. Tiens, on va construire un colisée à ce tour-là, il y a beaucoup d'argent, probablement que ce sera un très beau colisée, donc que les loisirs vont monter, etc. etc. quoi.
Donc on est aussi dans un jeu d'optimisation à ce moment-là.
Oui, il est clair qu'il faut prendre des points un petit peu partout et les prendre le plus intelligemment possible. C'est-à-dire qu'on peut spéculer la baisse, on peut spéculer la hausse, on peut également je sens que sur cette partie, tous les jetons vont être très bas parce qu'il va y avoir des événements. Donc il y a des événements qui affectent la République, par exemple des épidémies, auquel cas la santé va baisser. Et donc se dire, dans cette partie, je sens que ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup de jetons puisque les jetons vont avoir des valeurs assez basses. Donc se concentrer sur des points de victoire plus directs, par exemple construire des arcs de triomphe, des statues, etc. Donc c'est dans le style Histary, dans le sens où effectivement il y a pas mal de façons de marquer des points.
Ok, c'est un jeu pour combien de joueurs?
Alors, pour l'instant 3 à 4 joueurs. On a une version à 2 joueurs également. On est en train d'essayer de voir si on va le faire marcher ou pas à 2 joueurs. Comme c'est un jeu, comme j'ai dit, un peu d'alliance tacite, évidemment à 2 joueurs, ce sera une espèce de variante parce que c'est difficile de faire des alliances à 2.
Effectivement. Comment ça s'est passé la rencontre avec Dominique Erard par rapport à ce jeu-là?
Oh ben, je connais Dominique depuis quelques années. Dans le temps où j'avais une boutique, je travaillais dans une boutique qui s'appelait Fireball. Et un jour, Dominique, qui avait une exposition dans le coin, est venu nous voir. J'ai eu la chance de le reconnaître. Donc, on a commencé à discuter de choses et d'autres. On est devenus amis comme ça. Et là, il m'a proposé un jeu qui était un autre jeu, qu'on doit toujours retester d'ailleurs dans sa bonne version. Parce que On a testé le jeu une fois, mais on avait fait une erreur dans les règles. Et on s'est vu avec Dominique pour discuter de ça. Il m'avait dit, mais tu sais, j'ai un autre jeu, c'est les Romains et tout ça. Je lui ai dit, ah là, tu m'intéresses. Et donc, il nous a filé Scylla. Et finalement, on s'est retrouvé à travailler sur Scylla au lieu de travailler sur l'autre jeu. Donc, on doit toujours travailler sur l'autre jeu. Mais en attendant, on a. Donc, qui n'est pas signé, lui. Mais voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça, par hasard. Et puis, voilà.
Ok. On a vu des vagues vikings. Maintenant, on voit des vagues romaines, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme statut? C'est une question à la con, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme, extrapolation de ça? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des années à thème où on voit Tribun qui sort, on voit Scylla
Ouais, c'est curieux, c'est dans l'air du temps. Mais moi-même, je dois dire que par exemple, Amitis, au départ, la toute première version d'Amitis, qui est le précédent jeu qu'on a sorti la semaine dernière, devait être centrée sur les Égyptiens. On devait construire la grande pyramide. Et au moment où je me suis lancé dans le développement, je me suis dit non, c'est trop bête. Au tout début du développement, je me suis dit c'est trop bête, il y a trop de jeux égyptiens qui sortent en ce moment, trouvons un autre thème. Et donc je me suis retrouvé avec les jardins suspendus de Babylone, ce qui revenait un petit peu au même puisqu'on construisait une merveille, ce qui était un peu mon but. Mais effectivement, on ne sait pas trop pourquoi, il y a des vagues qui arrivent comme ça. Bon, la vague romaine pour l'instant n'est pas très forte, ça va, on a encore de la chance, on est encore dans les premiers. C'est vrai qu'il y a eu une grosse vague égyptienne et il y a eu une grosse vague viking, donc une grosse vague pirate aussi, énorme. Donc on essaye d'être dans le début de la vague romaine et on espère qu'elle ne durera pas trop longtemps.
Oui, c'est ça. Donc par rapport à une ligne éditoriale qu'on se donne par rapport à une société d'édition, donc on a un choix de jeu, on a un choix de mécanisme, mais il y a quand même aussi une écoute du marché qui fait que, tiens, on fait dans le romain, alors essayons dans le romain.
Non, oui et non, parce qu'il faut savoir que nous, on prend les jeux très en amont. Scylla, la première fois que j'y ai joué, c'était il y a pratiquement 2 ans. Enfin, j'exagère peut-être, mais ça devait être au moins il y a 1 an et demi. Donc à l'époque, on était en pleine vague autre chose, probablement en vague égyptienne à l'époque. Donc non, le jeu nous a plu avec son thème, on l'a pris en entier. Je sais que Dominique, avant, sur Scylla, avait un autre thème. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, mais moi, quand il me l'a présenté, c'était déjà un jeu romain. Et je pense que le thème romain est vraiment le thème qui va le mieux au jeu, parce que c'est vraiment de la politique, que c'est un jeu de politique. Et bon, politique moderne, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, la politique romaine, on a vraiment tenté de l'orienter dans le sens un peu de la série Rome, c'est-à-dire du sang, du stupre, voilà quoi.
Je vois. Si on ressaute un peu dans le petit passé avec Amitis, justement, Amitis sortait à Essen en octobre 2007. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu-là à l'heure actuelle?
Amitis, déjà, ça s'est bien passé. On est content. On a fait un très bon démarrage en France. Voilà, probablement notre meilleur démarrage à ce jour. Donc, il s'avère que c'est assez amusant de voir les tendances, parce que quand on est arrivé nous sur le marché, il y avait peu d'éditeurs qui faisaient encore du gros jeu pour joueurs, quoi. Et peut-être un peu grâce au succès de Kellus, entre autres. Enfin, ce serait prétentieux de ma part de le dire, mais un petit peu, c'est vrai. Maintenant, il y a plus d'éditeurs qui s'y mettent. Donc, quand Amity s'est sorti, à Essen dernier, il faut admettre que le dernier Essen, il y a beaucoup de jeux qui sont arrivés dans notre tranche de jeux exactement. Donc, par exemple, Tribun, en Bourgoum, Cuba, l'année du dragon, etc. Beaucoup de jeux dans notre tranche de jeux. Donc, il est vrai que maintenant, c'est devenu un petit peu plus difficile d'exister dans cette tranche de jeux-là. Maintenant, c'est comme ça. Nous, on fait les jeux qu'on sait faire et puis on ne s'occupe pas trop de ce que font les autres, quoi. Mais bon, Amitis, on en est assez content et... De toute façon, en développement, c'est pratiquement le jeu duquel on est le plus content, parce qu'on sait qu'il peut tenir, il peut survivre à un nombre incalculable de parties. Et il est assez atypique. C'est-à-dire qu'on avait vraiment voulu en faire un jeu de rythme. Et de ce point de vue-là, on a réussi ce qu'on voulait faire. Maintenant, il connaîtra le succès qu'il connaîtra. Probablement qu'on ne fera pas 50, 60 000 comme Kellus, mais bon, déjà, on a vendu 10 000, ce qui n'est pas si mal. Et puis, je pense qu'il aura encore un avenir, parce qu'on a toujours cette extension en préparation pour un jour, et on la fera sûrement un jour.
Extension qui consistera à, si c'est pas trop indiscret.
Non, il n'y a pas de... En fait, l'idée, ce serait de rajouter un truc qu'on a viré dans le jeu de base à l'origine. On ne l'a viré pas pour dire, tiens, ça fera une bonne extension, on va gagner de l'argent, mais plus parce qu'on estimait que le jeu était assez complexe comme ça, que rajouter autre chose, c'était un petit peu exagéré. Et donc, l'idée, c'est de rajouter une autre profession, en plus des 4 qui existent déjà, qui serait les courtisans, et donc une autre zone de jeu qui serait le palais. Et dans ce palais... qui est une ligne sur laquelle on avance, en fait, il va y avoir des choses à faire, et notamment il y a, suivant la position dans le palais à la fin de chaque tour, on va pouvoir redistribuer les cartes. Notamment, ça va être une nouvelle façon de faire tourner le premier joueur, c'est-à-dire que celui qui sera le mieux placé dans le palais pourra choisir sa position, ou alors pourra choisir de gagner toutes les égalités de ce tour, ou alors pourra choisir de faire la procession. Donc c'est, disons que les rôles qui sont automatiquement distribués à la fin du tour seront plutôt distribués avec le palais, mais il y a aussi d'autres choses dans le palais. Donc,
Tu l'as dit assez justement, il y a moyen de faire des extensions juste pour faire de l'argent. Il y a beaucoup d'extensions qui sortent et qui ne rajoutent rien au jeu. Donc là, on est dans quelque chose qui relance ou qui fait découvrir le jeu d'une manière différente.
Oui, disons que nous, notre but, c'est... J'allais dire que maintenant, c'est le problème. On est un petit peu dans une civilisation du jetable, y compris pour les jeux de société. Le marché allemand est devenu un petit peu fou, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup d'extensions qui sortent pour faire de l'argent. Nous, c'est plus dans le genre, c'est l'esprit Marines, à savoir on n'abandonne pas nos jeux sur le terrain. C'est-à-dire que là, par exemple, dernièrement, on a sorti l'extension Mikarinos. Il est clair que l'extension Mikarinos, on la vend 4€. C'est pas avec l'extension Mikarinos qu'on va gagner des 1200. Mais simplement, Mikarinos, c'est un jeu qui est sorti, qui s'est bien vendu pareil, mais qui est passé un petit peu inaperçu maintenant parce que d'autres jeux sont sortis, etc. Et nous, on pense que le jeu a toujours du potentiel et que c'est toujours un bon jeu. C'est dommage de nos jours, et on y contribue aussi en sortant des jeux, de voir que les gens oublient les anciens jeux pour tester tout le temps les nouveautés. Moi, par exemple, je peux vous dire que dernièrement, j'ai eu le plaisir de refaire une partie de Goa. Parce que c'est des jeux qui prennent un peu la poussière parce qu'on veut toujours jouer les nouveaux. On a pris un pied terrible, c'est-à-dire on s'est dit mais pourquoi des fois on se fatigue à jouer au nouveau jeu alors qu'on a ça dans la ludothèque qui est bien meilleur pratiquement que tout ce qui est sorti à Essen l'année dernière. Désolé pour tous ceux qui ont sorti des jeux à Essen l'année dernière, mais en l'occurrence sur Goa c'est ce que je pense, c'est vraiment un jeu fabuleux. Donc l'idée c'est de dire attention, les anciens jeux existent toujours et par le biais des extensions on peut toujours le faire quoi. Donc on n'a pas une politique qui vise à sortir tout de suite l'extension pour faire perpétuer le jeu, mais plus pour toujours attirer l'attention. Mais évidemment faut que cette extension également rajoute quelque chose au jeu, parce que si c'est juste pour sortir une extension pour dire le jeu existe toujours, ça n'a aucun intérêt. Donc par exemple Mikarinos, c'est une extension qui change un peu la façon de jouer, et Amethyst, ce sera une extension qui changera un peu la façon de jouer. Et si on trouve que ça ne change pas assez suffisamment la façon de jouer, on la sortira pas.
Juste le fait d'avoir redécouvert Goa et de reprendre son pied avec ça, est-ce que c'est pas lié aussi au fait qu'il y a énormément de nouveaux jeux qui ont été testés et qu'on... Allez, je veux dire, tu n'aurais pas joué à d'autres jeux en revenant à Goa, est-ce que tu aurais pris le même pied ?
Je pense que oui, parce que, déjà, attention, je ne dis pas que ce qui sort n'est pas de la qualité. Il faut reconnaître qu'on a une bonne année des Sun derniers, c'était de la qualité, etc. Maintenant, pour moi, il y a eu vraiment un vrai âge d'or du jeu de société que je situerais globalement entre Catan et Torres. Et c'est là que beaucoup d'éditeurs qui sont maintenant sur le marché ont vraiment découvert cet univers et se sont mis à cet univers. Et moi, j'estime que, comme il y a eu un âge d'or de la science-fiction, moi je lis par exemple un peu de science-fiction, il y a un âge d'or connu de la science-fiction. Ça ne veut pas dire que maintenant il ne sort plus de bons ouvrages de science-fiction, mais quand même il y a eu un âge d'or qui a donné l'élan à toute une génération de nouveaux joueurs. Donc ces jeux-là, pour moi, sont des incontournables, ils font partie d'un certain âge d'or. Et de toute façon, c'est difficile de ne pas prendre du plaisir en jouant à Goa, et probablement que dans 50 ans, ce sera toujours vrai, quoi qu'il sorte entre-temps, quoi, j'allais dire. Donc voilà ma position. Donc c'est pas tellement que les nouveaux jeux soient pas bien, mon Dieu, il faut jouer à Goa, mais c'est plus que, de toute façon, n'oublions pas les racines, n'oublions pas ce qui nous a amené là. Alors certains jeux vieillissent, pourquoi ? Parce que leur graphismes ne sont pas aussi bien que ce qu'on fait maintenant, les mécaniques sont un petit peu poussiéreuses que par rapport à certaines mécaniques plus dynamiques, mais quand même, il y a aussi beaucoup de bons jeux, enfin je veux dire, les Tikal, Torres, Java, tout ça c'est des jeux qui pour moi sont incontournables et qui sont un peu la base de... Enfin, la raison pour laquelle je fais ce métier. Donc je dis n'oublions pas ça, n'oublions pas pourquoi on est là quoi.
Bah, peut-être que je ferai un podcast dans une dizaine d'années avec quelqu'un qui m'a dit on a ressorti une boîte d'Amity, c'était extraordinaire.
J'espère. Mais j'espère parce que ce que tu dis c'est un point important pour moi. J'allais dire à la limite, peu m'importe que Amity soit passé plus inaperçu que l'était passé Kellus, parce que Kellus est sorti la bonne année aussi, il faut le dire, une année où il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent pour les gamers, c'était un peu calme depuis Puerto Rico, on va dire ce qui est, tandis que Amethyst lui est sorti au milieu d'une population un petit peu plus dense. Mais j'aurais grand plaisir à savoir que dans 20 ans des gens joueront toujours Amethyst, parce que c'est ça le signe d'un bon jeu aussi. Donc je pense qu'il sera reconnu.
L'église est d'accord avec toi.